C'est un culte un peu spécial aujourd'hui, puisque nous sommes... On a l'impression qu'on devrait être de l'autre côté, peut-être, mais nous sommes ici et nous irons là-bas. Nous irons au foyer Saint-Charles tout à l'heure. Je vous le proposerai au moment... Nous vous le proposerons au moment des annonces, après le culte, voir ce qui se passe, si on arrive à rentrer. Le thème aujourd'hui, de ce week-end, c'est « Mille et une briques ». Les enfants ont construit hier, pendant toute la journée, une ville en briques, qui vaut en petites briques, en Lego, ça vaut le déplacement. C'était une très belle journée et le thème est tout trouvé. Construire l'édification. Cela illustre le fait que les chrétiens, nous en tant que chrétiennes et chrétiens, nous avons quelque chose à construire. Nous avons du boulot dans ce monde. Nous ne sommes pas là pour simplement nous réjouir de la joie du salut. Nous avons une mission dans ce monde. Nous avons des tas de choses à faire. Et je vous propose de garder cette image de la construction et je garderai un point, un axe de réflexion. Le thème de la construction est assez fréquent dans le Nouveau Testament. Jésus, lorsqu'il a parlé de son Église, a utilisé ce thème. C'était au moment où l'apôtre Pierre venait de lui dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et à ce moment-là, Jésus a dit « Eh bien, toi, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon assemblée, mon église. » Sur la pierre qu'a été l'apôtre Pierre, Jésus va construire son église. Sur ce Pierre qui vient de le confesser comme le Messie. Et à l'imitation, à la suite de Pierre, de Simon-Pierre, nous confessons aussi que Jésus est le Messie. Le Fils de Dieu. Et nous faisons, nous aussi, partie de la construction que Jésus fait. Je viens de citer Matthieu 16, 18, mais les connaisseurs parmi vous, et ils sont nombreux, ont déjà repéré cette référence. Et Jésus ajoute d'ailleurs dans cette phrase qu'il adresse à l'apôtre Pierre que la mort ne gagnera pas sur l'Église. On a tous, les vieux comme moi, on a tous... Et là, j'attendais que vous disiez, mais non, on a tous en mémoire, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Connaissez ce texte de Matthieu 16, 18, les plus anciens, on a cette version en tête. Ça veut dire que la mort ne va pas réussir à l'empêcher de vivre, elle ne va pas réussir à la faire plonger dans l'abîme, cette église que Jésus construit. Donc Jésus, en disant « Je construirai mon église et la mort ne réussira pas, elle résistera à la mort ne réussira pas à l'emporter », Jésus a déjà une visée éternelle. Nous sommes dans une construction éternelle. Nos bâtiments de culte, si beaux soient-ils, et même si en ce moment l'une de nos trois églises, la Ruche, est en train d'entrer dans des travaux, bien même ces bâtiments-là ne seront pas aussi éternels que ce que Jésus construit, son Église. Et nous ne parlons d'ailleurs pas d'un bâtiment, mais de pierre vivante, de la communauté que nous formons ensemble, tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe après dans le livre des Actes des Apôtres? Ben, on voit l'Église, on voit Jésus à l'œuvre en quelque sorte. Verset 31 du chapitre 9 du livre des Actes donc, « L'église de toute la Judée, la Galilée et la Samarie étaient donc en paix. Elles se construisaient, vivaient dans la crainte du Seigneur et se multipliaient par l'encouragement de l'Esprit-Saint. » L'église se construisait, nous dit le livre des Actes. La paix est nécessaire pour se construire, pas forcément la paix. Elle vivait en paix, est-il écrit, hein, elle était donc en paix. La paix n'est pas forcément la paix des circonstances extérieures, comme si tout le monde nous laissait tranquille. Au début du livre des Actes, et dans le livre des Actes, l'Église était encore une minorité regardée de travers par les Juifs, puis par les païens. Et nous, aujourd'hui, même si nos circonstances sont plus paisibles, ce n'est pas toujours le cas, ça n'a pas toujours été le cas, et ce n'est pas le cas partout. La paix, c'est avant tout... Quand est-ce qu'une Église se construit ? Sinon quand elle-même vit la paix que Dieu lui donne. Quand nous sommes en paix entre nous, frères et sœurs. Et je peux même dire que l'Église se construit à Saint-Louis quand nos communautés sont en paix, les unes avec les autres et en leur sein. C'est un message qu'il est bon de donner dans un temps où nos trois communautés se rassemblent pour un effort commun et où nous nous rappelons ensemble que si nous voulons construire quelque chose, nous voulons le faire dans la paix fraternelle, la paix de Dieu. Et nous le faisons. Ce n'est pas du tout un appel désespéré parce qu'on se dispute. Non, je me réjouis de ce temps, de ces journées communes, ces week-ends communs. Mais il y a aussi la crainte de Dieu dans ce verset du chapitre 9. Elle se construisait, elle vivait dans la crainte du Seigneur. Alors bien sûr, le mot crainte, c'est un mot à tiroir, un mot un peu complexe, mais ce qu'on retient, c'est qu'on se construit, nos églises se construisent, notre église de Saint-Louis se construit dans la relation à Dieu. Nous ne construisons pas parce que nous sommes des gens sympathiques, quand bien même nous le sommes, j'espère quand même, mais nous nous construisons parce que nous craignons le Seigneur. Parce que le Seigneur, nous le prenons pour notre Dieu, notre Maître, celui à qui nous nous soumettons, celui dont nous écoutons la voix, dont nous écoutons la parole. C'est comme ça que nous nous construisons, entre guillemets. Et puis, le dernier petit morceau de phrase, l'encouragement du Saint-Esprit. Je me trouve dans une église pentecôtiste. Il y a au-dessus de moi la représentation, je pense, l'allusion à la colombe qui représente le Saint-Esprit au moment du baptême de Jésus. L'encouragement du Saint-Esprit, l'exhortation du Saint-Esprit, nous dit ce texte d'Actes 9, 31. Oui, le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui pour construire. Nous avons besoin de son exhortation. C'est surprenant de voir ce mot d'habitude, encouragez-vous, exhortez-vous, c'est ce que nous faisons. Là, c'est l'action du Saint-Esprit. Laissons-nous encourager par le Saint-Esprit, chacun, chacune d'entre nous. Venons-en à un texte de Paul qui utilise à son tour l'image de la construction. Au passage, l'image de la construction, c'est une image simple, populaire, que tout le monde comprend. Et l'apôtre Pierre va l'utiliser aussi, vous avez peut-être en mémoire un Pierre de 5, comme des pierres vivantes, je disais tout à l'heure, construisez-vous pour former une maison spirituelle. Ben, j'ai toujours pas lu le texte sur lequel je voudrais m'attarder ce matin. J'y viens maintenant, 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre, comme vous le faites déjà. Contribuez à la construction de l'autre. Cette fois, il s'agit non pas de construire le corps de Christ, de construire la grande assemblée, de construire nos églises, mais de nous construire individuellement. Et la mission que Paul donne aux Thessaloniciens ici, aux chrétiens de Thessalonique, c'est de travailler pour l'autre, pour celui, celle qui est à côté de moi. Ce n'est pas le développement personnel au sens où moi je dois me développer, me construire. C'est moi qui me mets au service du développement de mon frère ou de ma sœur. Bien sûr, on s'inscrit dans le grand projet de construction de l'Église, mais on s'y inscrit de cette manière-là, en pensant aux autres. Il y a l'encouragement mutuel, au début du verset, encouragez-vous mutuellement, et ensuite, construisez-vous l'un l'autre. Le texte se situe c'est le dernier chapitre, donc Paul livre ses dernières recommandations, on en lira quelques-unes, et il commence le chapitre avec des mises en contraste. Il y a d'un côté la nuit et de l'autre le jour. Il y a d'un côté le sommeil J'espère que vous n'êtes pas de ce côté-là ce matin. Et il y a de l'autre côté la sobriété et l'éveil. Alors évidemment, nous qui sommes sobres, nous qui ne nous laissons pas alourdir par toutes les préoccupations de la vie, qui restons, sobriété est un thème d'ailleurs très actuel, nous qui sommes dans la lumière et non pas dans la nuit, alors c'est un thème très, très fréquent dans la Bible, la nuit c'est le péché, c'est la tristesse, l'éloignement de Dieu, puis la lumière c'est tout le contraire, c'est la présence de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix. Alors nous qui sommes là dans ce jour-là, eh bien encourageons-nous, exhortons-nous mutuellement et construisons-nous. Alors, c'est un peu paradoxal parce que se construire, moi, quand je construis, quand on achète, vous êtes plusieurs peut-être à avoir acheté un appartement, à construire, vouloir construire une maison, je ne sais pas, ça veut dire qu'on s'installe pour durer. On va pas construire une maison pour la quitter le mois prochain, à moins d'être un peu idiot. Mais là, paradoxalement, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, nous dit la Bible, et pourtant nous sommes appelés à construire. Alors il ne faut pas perdre de vue que la construction à laquelle nous nous livrons n'est pas... C'est le peuple de Dieu auquel nous participons, la construction duquel nous participons, et ce peuple de Dieu a une visée au-delà de ce monde. Donc il s'agit bien de construire quelque chose, et là le micro est en train de se déconstruire... Il s'agit bien de construire quelque chose qui dure au-delà de notre monde. C'est bien ça que nous construisons. Donc bon courage pour les bâtiments, mais ce n'est pas de cette construction-là dont nous parlons. L'idée maîtresse de ce texte, c'est l'entraide. C'est la solidarité spirituelle. Je cherche à ce que mon frère ou ma sœur grandisse dans sa foi. Je construis l'autre. Je cherche à ce que son amour pour Dieu soit plus fort chaque jour. Je cherche à ce que l'action de mon frère ou de ma sœur soit pertinente de plus en plus, soit de plus en plus fructueuse dans ce monde. Et je ne cherche pas à être plus spirituel que lui. C'est un texte anti-orgueil que nous avons là. On pourrait aussi l'appliquer à nos relations entre communautés d'ailleurs. Nous les baptistes, nous cherchons à avoir une meilleure exégèse que les autres. Nous les mennonites, nous cherchons à avoir une meilleure pratique que les autres. Nous les pentecôtistes, nous voulons avoir une meilleure vie spirituelle que les autres. Quittons ce genre de raisonnement. Et mettons que nos communautés se mettent au service les unes des autres. Si je puis me permettre cette application un petit peu décalée par rapport à notre texte. Mais pourquoi pas ? Au lieu d'être dans la concurrence. Ayons de l'ambition pour nos frères et sœurs. La suite du texte de Thessaloniciens permet peut-être de mieux comprendre ce que l'apôtre Paul dit, construisez-vous. Parce que là, construisez-vous, c'est une image. On est d'accord, c'est quelque chose de l'ordre spirituel. Construisez, participez à la construction de votre frère, de votre sœur. Verset 12, il est question des responsables d'église. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez-les en très haute estime et aimez-les à cause de leurs œuvres. Alors, évidemment, quand un pasteur lit ce genre de texte, on le soupçonne toujours d'être intéressé, de réclamer l'estime des autres, etc. Ce que je souligne ici, c'est que si les questions des responsables d'église à cet endroit, c'est précisément parce qu'il est question de construire l'autre, à mon avis. C'est-à-dire que le travail des responsables d'église est de construire les autres. Et non pas de s'élever au-dessus d'eux, mais de construire les autres, de les encourager, de leur donner des enseignements, de la connaissance, de l'encouragement pour que les autres soient des chrétiennes et des chrétiens de plus en plus affermis. Les responsables d'église, de ce point de vue, sont bel et bien des serviteurs des autres et se mettent au service de leur croissance. Et nous ne sommes pas là dans un jeu de pouvoir. Soyez en paix, dit la suite du verset 13. Soyez en paix entre vous. Nous revenons à la notion de paix. Pour construire les autres, il faut que je sois en paix avec les autres. La paix, vous savez bien que dans Paul était juif, et quand un juif parle de la paix, c'est tout un monde qui s'ouvre. C'est toute une notion, la notion de bonheur, la notion de solidarité, la notion de justice, la notion d'optimisme, d'amour. C'est toujours quelque chose à travailler. C'est toujours quelque chose à partager. Et c'est une mission que nous avons de donner de la paix à ceux qui nous entourent, d'être au service de leur bien-être, de chercher à ce qu'ils aillent bien. Et c'est pour cela que cet ordre est donné, toujours comme si c'était des applications pratiques de cette image « construisez l'autre ». Paix entre individus, et je reviens aussi à la paix entre nos communautés. Ce que nous vivons régulièrement en tant que responsables, quand on se rencontre au niveau des responsables de nos trois communautés, mais j'allais dire on est comme des larrons en foire, mais tout de même pas, mais on s'entend très bien, et le courant passe, et on est au service du même maître. Paix entre individus, paix entre communautés. Puis, pour faire grandir l'autre, il me faut peut-être aussi, de temps en temps, lui donner un coup de coude. Verset 14, nous vous y encourageons, frères et sœurs, avertissez les indisciplinés. Alors, je vais faire la liste des indisciplinés qui sont là parmi nous. Le principe, bien sûr, n'est pas ce que je viens de dire, mais quand même, si je vois quelqu'un qui m'intrigue, qui me surprend, alors peut-être que c'est moi qui dois changer, peut-être que je dois réviser ma façon de voir les choses, mais peut-être que c'est lui ou elle aussi. Ayons cette liberté entre nous, si nous voulons, toujours dans l'esprit de construire l'autre, de lui être utile, si nous voulons construire l'autre, parfois, il faut l'aider à démolir certaines choses. Vous savez bien que dans un chantier, quelquefois, on doit casser des murs pour en reconstruire d'autres. Parfois, dans une vie, c'est pareil, il y a des habitudes à casser, il y a des principes à casser pour pouvoir construire ce que le Seigneur veut construire. Et encore une fois, il ne s'agit pas, quand on fait une remarque à l'autre, de lui montrer qu'on est plus spirituel que lui, de lui montrer qu'on a plus de connaissances. Si je dis quelque chose à mon frère, à ma sœur, c'est pour lui être utile. C'est pour sa construction à lui, à elle. Et ce n'est pas pour ma gloriole. Faire grandir l'autre, réconforter ceux qui sont abattus. Suite du verset 14. Se mettre au service de mes frères et de mes sœurs pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient construits, c'est parfois tendre l'oreille, écouter, essayer de comprendre, ne pas arriver avec mes beaux versets que je vais lui imposer. C'est prendre le temps de m'abaisser avec celui qui est en bas, de pleurer avec celui qui pleure. Nous ne sommes pas en bois. Nous avons des hauts et des bas, nous avons des larmes. Celui qui est abattu, ça peut être moi, ça peut être toi. Celle qui n'a plus le moral, celle qui n'en peut plus, ça peut être toi, ça peut être moi. Nous sommes dans un chemin qui n'est pas toujours simple, nous les êtres humains, tous chrétiens que nous sommes. Il ne s'agit pas ici de mépriser la petitesse de celui qui est abattu. de regarder de haut celui qui a des problèmes que soit on n'a pas, de regarder avec condescendance celle qui se bat contre des difficultés, des addictions. Il s'agit d'encourager. Il s'agit de réconforter. Je ne sais pas quelle recette vous avez, ça peut passer par un repas, ça peut passer par une promenade, ça peut passer juste par écouter. Je me souviens d'avoir visité une jeune maman dont la fille de même pas 10 ans était hospitalisée en service d'oncologie pour un cancer grave. Cette femme pleurait. Elle me parlait. Et moi, je ne savais pas quoi lui dire. J'ai balbutié quelques mots. Quand je suis parti, elle m'a dit « Merci, tu m'as encouragé. » Je dis « Arrête, je t'ai rien dit presque. » Oui, mais je l'ai écouté. Réconforter, ce n'est pas des grandes recettes, c'est un cœur qui se donne. Faisons ça entre nous. Quand quelqu'un flanche sous la charge, réconfortons-le et on l'aidera à grandir. On n'aura pas forcément les solutions. Prions Dieu pour des guérisons, nous prions Dieu pour des interventions divines, oui. Mais ça ne se passera pas forcément, le Seigneur a peut-être d'autres plans. Mais ce qu'il nous demande, c'est de réconforter, avec les moyens que nous avons. Et on fera grandir notre frère, notre sœur, même si l'épreuve est rude. Alors, nous vous y encourageons, frères et sœurs, avertissez les indisciplinés, réconfortez ceux qui sont abattus, et dans quasiment le même registre, soutenez les faibles. Ah, les forts et les faibles, chez l'apôtre Paul. Quel casse-tête. Parce qu'à la fin, je me demande toujours qui est fort et qui est faible. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un faible chez l'apôtre Paul ? C'est par exemple quelqu'un qui est mal affermi dans sa pratique de la foi. Quelqu'un qui fait des erreurs doctrinales, de compréhension de la Bible. On n'a pas tous la même compréhension de la Bible. On n'a pas tous la même maturité spirituelle. Vous avez des gens qui ont une sagesse formidable, et vous en avez des autres qui tombent régulièrement dans des pièges. Il y a des gens qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience. Il y a des plus jeunes qui ont moins d'expérience et qui risquent de se tromper plus facilement, peut-être. Je ne dis pas que c'est une loi, parce qu'on peut avoir un certain âge et se planter aussi. J'en suis la preuve vivante. Mais quand même, on n'est pas tous égaux devant les défis de la foi, notre compréhension de la foi. Quel est le rôle de ceux qui se pensent les plus sages ? L'apôtre Paul est clair, le fort doit venir en aide aux faibles. Et ici, il est question de soutenir les faibles. Ça veut dire qu'on n'en fait pas partie ? Reste à définir. Nous sommes toujours le faible de quelqu'un à un moment donné. Quelqu'un va pouvoir me donner de la sagesse que je n'ai pas. Mais ça veut dire, ce texte nous encourage en tout cas à aider ceux dont nous pensons qu'ils en ont moins que nous. C'est important d'avoir cette solidarité, non seulement pour la personne qui est abattue, mais aussi pour la personne qui a un discernement, une sagesse, des choix de comportement qui sont peut-être plus difficiles pour elle. Et puis, si ça ne marche pas, il y a l'exhortation suivante. Soyez patient. Oui, parce qu'à un moment donné, le frère ou la sœur va être insupportable, va dire des bêtises. On aura eu beau l'abreuver de notre sagesse, ça ne va pas marcher. Il va continuer à dire des bêtises. Soyez patient. La patience ne fonctionne que si, ne grandit que si elle est exercée. Vous voyez ce que je veux dire. La vie d'Église a ceci de beau qu'elle augmente notre patience. Parce que des gens qui disent des bêtises, on en a toujours. Et, je le rappelle, on en fait partie, quelquefois. En tout cas, moi. Vous, je ne sais pas. Soyez patients pour que l'autre grandisse, pour construire l'autre. C'est paradoxal parce que tout à l'heure, je vous disais, il faut savoir, à un moment donné, donner un coup de coude et dire à l'autre, là, tu te plantes, fais attention. Mais là, maintenant, c'est presque l'inverse. Soyez patient. Il faut supporter, ne pas s'énerver quand un chrétien ou une chrétienne à côté de nous dit quelque chose qui ne nous semble pas être juste. Supporter les défauts des autres. Supporter leur manie. Supporter leurs mauvaises habitudes. Supporter leurs prières qui sont toujours les mêmes. Supporter qu'ils chantent faux. J'ai rien entendu ce matin. Non, Emmanuel, j'étais à côté de toi, mais non, toi tu chantes juste. Enfin, je pense. Ou alors c'est moi qui chante faux, peut-être tu as dû me supporter. Supporter des mauvaises habitudes, j'ai dit. Aider à grandir, aider l'autre à se construire, à grandir, c'est aussi le supporter. Puis après, l'apôtre Paul continue, cette idée de construire l'autre, on va arriver à quelque chose encore de plus dur que simplement de supporter l'autre. Il va falloir le pardonner. C'est embêtant ce texte en fait. Je devrais m'arrêter là, attendez, on est en train de passer une bonne journée. Et là, non, quoi. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Ça veut dire que du mal, il va y en avoir dans l'Église. On parle beaucoup aujourd'hui des personnes manipulatrices, des pervers narcissiques. Et régulièrement, il y a des livres qui sortent dans ce domaine. Régulièrement, on entend cela dans les églises. Il y a du mal dans les églises. Il y a des péchés dans nos églises. Parce que nous sommes des gens, des gens normaux, malheureusement. Le Seigneur fait une œuvre de salut, de délivrance, de pardon, de grâce dans nos vies. Il y en a moins qu'avant, mais bon, c'est pas gagné encore. On a encore du pain sur la planche. Et ce qui se passe ici, c'est que quand quelqu'un me dit une parole qui me vexe à la sortie du culte, je ne rends pas le mal pour le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le meilleur des cas, on dit rien. Et dans le ce qu'il faut éviter, c'est de lui renvoyer l'ascenseur. Il y a des techniques de communication comme ça où on apprend à reformuler, hein, ou à éviter les techniques de communication non violente, où on apprend à éviter qu'une conversation de coin de porte s'envenime. Faisons très attention dans nos paroles à ne pas rendre le mal pour le mal. Quand quelqu'un nous dit une parole agressive, prenons de la distance. Ne rendons pas le mal pour le mal, mais poursuivons le bien. Entre nous et autour de nous. C'est un des textes, poursuivons le bien, c'est un des textes qu'on utilise pour nous encourager à faire le bien nous, autour de nous. Vous voyez, cette construction de l'un pour l'autre est une véritable mission fraternelle que l'apôtre Paul ici nous donne. Il n'y a, dans les erreurs des autres, il n'y a pas de condescendance, pas de mollesse à être patient et à les pardonner. Mais il y a une sagesse spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à nous venger. Nous ne sommes pas appelés à enfermer l'autre dans le mal qu'il a fait. Nous ne sommes pas non plus appelés à passer le mal qu'il a fait sous silence. Mais il ne faut pas être sans cesse en train de le rappeler ou de le faire payer. On fait grandir l'autre en faisant le bien avec lui, en l'entraînant dans de bonnes actions. Quand on agit ensemble et quand on invite l'autre à s'engager, alors on l'aide à se construire. Viens faire le bien avec moi, mon frère, ma sœur. Et puis Paul poursuit ses exhortations. Je vais m'arrêter là dans la lecture, ou sinon simplement aller lire. Je ne sais pas trop dire si ce sont des exhortations de fin d'épître ou si c'est vraiment encore une mise en œuvre de se construisez l'autre. Alors lisons-les. Réjouissez-vous toujours. Oui, la joie construit, ça je confirme. Réjouissez-vous toujours. Priez continuellement. Prière. Rendez grâce en toutes circonstances. Telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, cet esprit qui encourage. Vous vous souvenez de ce texte qu'on a lu tout à l'heure. Ne méprisez pas les messages des prophètes, toutes ces exhortations, toutes ces paroles qui nous sont utiles. Examinez tout, retenez ce qui est bien, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Aidez l'autre à grandir. Jésus construit son Église, l'Église se construit, chacun de nous est ajouté à la construction, nous, des pierres vivantes. Voilà le sens collectif. Et puis il y a le sens individuel au niveau de ma vie. Ma charge, ma responsabilité est de grandir, mais c'est aussi d'encourager l'autre à grandir lui-même. Soyons des constructeurs les uns des autres. Et nous nous inscrirons dans cette grande construction que Jésus a entamée un jour, le jour où il a dit qu'il allait construire son Église. Regardons les intérêts des autres comme supérieurs aux nôtres, dira par ailleurs l'apôtre Paul. Pas d'orgueil dans cette construction de l'autre. Et puis un encouragement pour finir mon verset 11, parce que je ne fais que commenter le verset 11. Il y a une phrase que je n'ai pas encore dite, et je vais terminer avec celle-là. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre, comme vous le faites déjà. L'apôtre Paul sait reconnaître que ses lecteurs et ses lectrices ont déjà parcouru du chemin dans ce domaine. Il n'est pas en train de les culpabiliser en leur disant que c'est des nuls qui n'ont rien compris. Non, ils sont déjà dans la bonne voie. Mais allez plus loin, vous le faites déjà, c'est super, mais ne vous arrêtez pas en chemin, continuez de vous construire. Je vous invite à prier. De construire toi-même ton Église. Nous te remercions pour ton esprit qui est à l'œuvre dans nos cœurs. Nous confessons, Seigneur, que plus souvent qu'à notre tour, nous n'écoutons pas cette œuvre de l'Esprit, cette voix de l'Esprit en nous. Nous confessons notre orgueil, Seigneur, à nous prétendre plus sages, plus spirituels que bien d'autres. Nous confessons notre égoïsme à vouloir nous construire, nous, et à laisser les autres faire leur chemin comme ils peuvent. Nous confessons notre mollesse, parce que nous ne cherchons ni à construire nous-mêmes, ni à construire ton Église, ni à construire les autres. Et nous disons, quelle joie nous avons de recueillir ta grâce. Merci Seigneur, parce que toi tu nous aimes, tu fais de nous tes enfants, tes fils, tes filles. Tu fais de nous le temple de ton esprit, les temples de ton esprit. Et nous te prions que dans nos relations entre personnes, entre communautés, nous ayons le souci de faire grandir les autres. Nous nous réjouissions de les voir grandir au lieu d'être jaloux. Nous nous réjouissions de les voir porter du fruit au lieu de vouloir en porter plus qu'eux. Que nous soyons toutes et tous des frères et des sœurs qui construisent les autres, qui sont une bénédiction pour les autres, Et Seigneur, en priant cela, je te prie que moi j'accepte d'être construit par les autres. J'accepte mon besoin de leur intervention dans ma vie. J'accepte d'être repris, d'être interpellé, d'avoir des remarques, des reproches. Car cela vient de frères et de sœurs qui m'aiment, qui aiment ton royaume et qui veulent que je sois plus construit, que je sois plus grand. Nous te louons, Seigneur, pour cette solidarité spirituelle que nous avons. Nous te remercions, Seigneur, de nous aimer et de nous engager à nous aimer les uns les autres et à répandre cet amour autour de nous. Amen.